Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre dans notre émission. Alors, j'ai compté, figure-toi, Laurence.
C'est pas vrai.
Oui. Et alors, à
une émission... Combien de temps de ta vie as-tu perdu?
Oh, bah, j'avais un week-end, j'ai pas grand-chose à faire. Non, un samedi après-midi. En fait, j'ai compté, c'est approximatif, oui. Parce qu'il y a quand même une petite marge. Oui. Voilà, à deux émissions près, on serait à la 160e.
Aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui.
Magnifique.
Et en fait, Pluriel Gay existe depuis 4 ans.
Ah,
ouais, ouais.
Il me semblait.
Ouais, premières émissions 2011. Et pour ceux qui... oui, déjà, Bernard. Et, et pour ceux qui voudraient en savoir plus et savoir comment l'émission a commencé, sur le site internet de Pluriel Gay, plurielgay.fr...
Nouveau site internet.
Les deux premiers sons de l'émission. Voilà, de 2011. Donc, c'est des émissions désormais historiques.
C'était qui les invités ?
Je me souviens plus. Ah si. Si, si, la première émission que j'ai faite, c'est avec le Refuge, l'association Le Refuge. Okay. C'est eux qui ont inauguré. Mais à l'époque, Bernard n'était pas là. Bon, toi non plus, ma petite Lolo. Mais Bernard, t'étais pas encore arrivé. T'es arrivé un petit peu plus tard.
Et du coup, tu faisais tout?
Non, bah oui. Enfin, oui et non. Au début, on m'avait un peu formé à la régie.
Oui.
Et puis après, oui, oui, j'étais en régie. Et
mais du coup, t'étais derrière.
J'étais
et tu
dans le bocal.
Là.
Et quand il y avait des invités, ils étaient là, dans le studio.
Ah.
Voilà. Et oui, il fallait bien commencer un jour.
Et
puis après, ben, l'équipe s'est étoffée. Bernard est arrivé. Et ensuite, Bernard, bonsoir.
Bonsoir, Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Bah, moi, je ne m'appelle pas Zorro quand même. Hein.
Et puis toi, tu es arrivé, donc on me disait, c'était il y a 3 ans, non? Alors c'est ça?
Non,
2 ans. On ne sait jamais. Hein.
Bon. Non, mais non, 1 an.
1 an, pas plus. Ça fait seulement 1 an, tu es sûr?
Tu mets le doute.
Bon, écoute, ça sera notre prochain projet.
1 an, ça doit faire 2 ans.
Oui, moi, je pense que ça fait 2 ans aussi.
C'est ça, 2 ans. Voilà. Je sais plus où j'en suis. Le temps passe tellement vite. Oui.
Aujourd'hui, donc, notre 160e émission, nous, on l'a consacré à plusieurs thèmes. Enfin,
oui.
Il y aura, on va dire, grosso modo, 2 thèmes. Il y aura un premier thème... On va parler donc d'une écrivaine.
Oui.
Et on va pas en parler, on va l'avoir directement en ligne.
Oui, Stéphanie Arc.
Stéphanie Arc. Donc, nous aurons tout à l'heure, après un premier morceau musical que je vais envoyer tout de suite. Alors, en fait, la deuxième thématique de l'émission, Stéphanie Arc, donc c'est l'écrivaine.
Mmh.
L'écrivaine plutôt lesbienne, on dira.
Oui.
Hein, ça sera thématique lesbienne.
Et
on a décidé de faire j'ai décidé de faire une petite thématique trans. Alors,
oui,
on a pris
bien.
De la musique.
Oui.
Et puis aussi parce que on veut parler d'un spectacle qui commence aujourd'hui au Carré 30 et dont le sujet, dont le personnage en tout cas central est un personnage, le personnage d'une femme trans. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait dit qu'on ferait un petit peu, on jouerait un peu sur les deux. Donc on va envoyer une première chanson, c'est une chanson de Kali qui s'appelle Différent. Oui, Kali a fait une chanson sur le sujet et on a pris plusieurs. Alors ce qui est intéressant,
je ne savais pas.
Voilà, on écoutera plusieurs chansons d'ailleurs sur le thème. Et moi, ce que j'aime bien dans ces chansons que j'ai choisies, et je remercie aussi Gilles. Tu connais Gilles Laurence?
Oui, bien sûr.
C'est mon petit cœur.
Je l'embrasse.
Nous, oui, oui, moi aussi, je l'embrasse.
Mon zouzou. Il est tellement sympa.
Mon zouzou, puis c'est mon zouzou. Et donc du coup, là, il a comment dire.
T'imagines sa tête là quand tu dis ça en direct? Moi je le vois d'ici, pourtant
oui.
Je le connais pas beaucoup.
Oui, 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 non, mais c'est sûr. Mais bon, encore, je dis pas tout. Je
oui.
Dis pas son nom, son
non.
Numéro de téléphone
oui.
À l'antenne. Cela, je crois qu'il n'apprécierait pas. Et du coup, donc je suis gentil avec lui. Hein. J'essaye de limiter les dégâts. Et en tout cas, il m'aide beaucoup pour l'émission, il faut le savoir. C'est un peu l'homme de l'ombre. Et aussi pour notamment le choix musique, les choix musicaux, thématiques.
Très bien.
Voilà.
Je ne savais pas, je l'apprends.
Voilà. Et grâce à lui, et grâce au choix, aux différents thèmes musicaux qu'on sélectionne, comme ce soir, ben on peut écouter des chanteurs français. Ça sera une sélection française, sauf peut-être si on écoute ta sélection. Mais c'est un peu particulier. On en parlera tout à l'heure. Mais sinon, c'est des chanteurs français d'actualité, on dirait, de jeunes chanteurs. Mais aussi, ça nous permet de reparler d'anciens, de réentendre, de réécouter de plus anciens chanteurs français qui ont eu leur heure de gloire, qu'on aime beaucoup. Et qui ont fait de la vraie chanson, avec des vraies paroles, de la vraie musique, de la vraie chanson française. Parce que des fois, ben voilà, on est cocorico. Voilà,
des
alors
fois.
En attendant, on va écouter Kali, qui lui est dans la catégorie jeune chanteur, entre guillemets, mais bon, voilà, il est plutôt jeune, mais c'est un chanteur d'actualité, en tout cas. On va écouter, ça s'appelle Différent, sur le thème de la transsexualité, du transgenre, plutôt. Bernardo, musique. La régie est en panne.
Oui, mais expliquons. Ouais. Voilà, c'est pour ça.
Toujours derrière le même arbre. Peut-être passaient-elles leur vie à m'observer. J'entends rire toujours derrière ce grand arbre. Passeront-elles leur vie de moi à se moquer? Suis-je si différent? Si différent. J'ai passé tous tes costumes, papa, mais je trouve plus doux de maman les dessous. Et le rouge à lèvres et les hauts talons bleus nus. Les culottes de soie, l'odeur de son vernis. Suis-je si différent? Si différent. Seul ami, tes scorpions supportent-ils bien leur captivité? Et je suis fier de toutes les ignominies que ta bouche à elle seule peut déverser. Où vas-tu chercher tout ça? 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 Tu es si différent, si différent. Tu es si différent, si différent. Je continuerai à saluer la femme à barbe du premier, même si elle ne me répond jamais.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Voilà, donc nous retour sur l'antenne de Pluriel Gay. Donc, comme je l'annonçais en début d'émission, je vais y arriver. Pourtant, je vous assure, je n'ai pas bu. En début d'émission.
Pas encore.
Voilà, nous avons donc prévu une interview avec Stéphanie Arc. Alors, Stéphanie Arc, Laurence, je vais te laisser en sa compagnie. Tu as fait un article dans Hétéroclite.
Oui.
Du mois d'avril de ce mois,
voilà,
au sujet de Stéphanie Arc. Et tu m'avais dit, ce serait bien qu'on l'entende aussi, Stéphanie Arc, parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être entendu. Voilà. Stéphanie Arc est-elle là?
Oui, je suis là, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir,
bonsoir Stéphanie. Donc, et bienvenue dans l'émission.
Oui, merci de me recevoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vais vous laisser entre les paluches de notre Lolo National.
Les paluches.
Voilà.
Les toutes petites paluches.
Petites paluches de Laurence.
Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Comme l'a dit Gérald, donc j'avais déjà écrit un article dans le Hétéroclite du numéro d'avril sur votre livre « Identité lesbienne, en finir avec les idées reçues ». Je voulais juste donc vous présenter juste deux secondes. Donc, Stéphanie Arc, diplômée de philosophie morale et politique, journaliste, et vous avez été vice-présidente de l'association SOS Homophobie. Jusque-là,
oui,
c'est bon.
Exactement. Parfait.
Parfait, nickel. Moi, je voulais voir, du coup, par rapport à votre livre, donc « Identité lesbienne » et surtout la suite du titre « En finir avec les idées reçues », je voulais savoir si ça a été plus simple de déceler ces clichés liés à l'homosexualité féminine, quand on a été vice-présidente d'une association luttant contre l'homophobie. Est-ce qu'il y a des témoignages, des rencontres qui ont pu vous aider, en gros, à écrire le livre?
Oui. Alors, en fait, c'est vraiment intéressant comme question parce que Dans le déroulement en fait de l'écriture de ce livre, ça s'est passé à l'envers en fait, si vous voulez, parce que ce livre donc qui est un grand format, qui est sorti en mars, c'est une troisième édition en fait d'un premier livre que j'avais écrit en 2006.
Oui.
Vous me dites si je suis trop longue. Hein.
Ah non, mais pardon, mais faites. Il n'y a aucun souci.
Donc en fait, ce premier livre, quand je l'ai écrit, donc c'était en 2005, et je n'étais pas du tout encore entrée, si vous voulez, en lutte. Enfin, j'étais déjà entrée en fait sans le savoir, mais j'étais pas encore à l'association SOS Homophobie. Oui. Et en fait, c'est en écrivant ce livre que j'ai pris conscience du fait que les idées reçues qu'on entendait couramment sur les lesbiennes et sur l'homosexualité féminine étaient une des formes de lesbophobie en l'occurrence, puisque c'est de ça dont il s'agit, que c'était une manifestation, un ensemble de manifestations de la lesbophobie et que ça y contribuait et que c'en était également une source importante. Donc c'est en démontant en fait ces clichés, en les analysant, en essayant d'apporter des éléments d'explication, etc., des chiffres et tout ça, et puis en les déconstruisant complètement, que je me suis rendu compte que c'était de la lesbophobie et que du coup ça m'a incité à j'ai contacté SOS Homophobie qui m'ont également fourni des statistiques en effet et puis des témoignages, etc., et puis du coup je suis entrée dans l'association.
D'accord.
Et depuis je l'ai pas quittée. Voilà. Oui. Donc c'est un petit peu, mais en effet du coup le fait d'être à SOS homophobie, notamment dans la commission lesbophobie dont je fais partie, ça m'a permis de continuer à avoir des informations supplémentaires, mais aussi à faire des conférences, des colloques, des interventions, et du coup de continuer à nourrir mes recherches sur ce sujet-là, quoi.
D'accord. Mais du coup, combien de temps il vous a fallu pour écrire le livre?
Du coup, ça fait 10 ans. Non, effectivement, il y a, mais c'est, en fait, c'est vrai, parce que la première édition, j'ai mis un peu plus d'un an. Alors, j'étais un peu une bébé lesbienne parce que ça faisait que quelques années, et puis, à ce moment-là, il y avait pas non plus tant de choses que ça qui avaient été écrites, tant d'études, tant d'enquêtes, etc. C'était vraiment, fallait faire, entre guillemets, les fonds de tiroir, des bibliothèques, etc. C'était une recherche aussi de mettre en avant ce qui avait été écrit déjà sur les lesbiennes, et bon. Et c'était... puis du coup en fait en grandissant et puis en faisant beaucoup d'interventions, peut-être plus de 50, enfin de radio, etc., de rencontrer des gens, puis de lire beaucoup, de voir beaucoup de films, etc., qui parlaient de ça en fait, et de séries comme Plus belle la vie, etc., enfin j'ai vraiment fait d'autres articles sur ces sujets-là, sur la santé, sur ça m'a permis de nourrir vraiment le livre, et du coup celui-là est beaucoup plus gros que le premier qui était un petit poche. Ça, c'est un grand format, du coup il y a beaucoup plus d'informations, en 10 ans, mais en fait j'ai déjà envie d'en faire une nouvelle édition, donc je sais pas, peut-être que je vais écrire ce livre toute ma vie.
D'accord.
Il est pas terminé encore, mais là je suis vraiment contente de cette version parce qu'il y a eu plein de changements également dans la loi, on en parlera sans doute, mais il fallait de toute façon le mettre à jour, quoi.
Mais du coup, en gros, je lui demandais qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Alors, ça peut être un peu vaste comme question, mais quel thème, parce que le livre, il y a plusieurs chapitres, il y a plusieurs, en gros, des grandes idées reçues que, en gros, vous amusez à déconstruire, d'ailleurs, très bien. C'est assez jouissif, d'ailleurs, à lire le fait que vous... La déconstruction de ces préjugés-là, ça fait assez plaisir à lire. Mais du coup, en gros, si vous pouviez expliquer aux auditeurs ce qu'il y a exactement dans le livre.
Alors, il y a en fait le principe de la collection, puisque c'est une collection qui s'appelle Idées reçues, qui est une édition du Cavalier Bleu. C'est un principe au départ, très formel, puisque l'idée c'est de, tout le monde a la même contrainte au départ, c'est de prendre des idées reçues sur un sujet et de faire un chapitre par idée reçue.
D'accord.
Donc en fait, vous voyez, il y a des titres sur le chocolat ou la thalassothérapie. Bon, moi c'était les lesbiennes en l'occurrence. Et du coup, en fait j'ai recensé 16 idées reçues, qui sont les idées reçues les plus fréquentes, on les reconnaît facilement, par exemple, qui est le stigmate de la camionneuse, par exemple, ou elles n'ont pas trouvé le bon, ou alors entre femmes, ce n'est pas vraiment du sexe,
Elles étaient des garçons manqués quand elles étaient petites, ce genre de choses.
Oui, voilà. Ouais. Ce sont des garçons manqués. Voilà, elles ont été agressées sexuellement et c'est pour ça qu'elles sont devenues lesbiennes parce qu'elles elles ne peuvent plus supporter le contact avec un homme. L'homosexualité féminine est mieux acceptée que l'homosexualité masculine. Voilà, etc. Donc, toutes ces idées reçues-là qu'on peut rencontrer quand on est lesbienne, que ce soit de la part d'un collègue qui fait une blague vaseuse ou au cinéma, etc., à la télévision, dans les séries télé, etc. Et du coup, chaque chapitre consiste à d'abord expliquer un petit peu cette idée, enfin la développer, et puis ensuite à essayer de montrer quelles sont ces parts de réalité, et puis surtout pourquoi les gens pensent ça, et puis en quoi ça peut être complètement idiot de le penser. Enfin, c'était vraiment une manière d'apporter beaucoup d'informations en même temps, puisqu'il s'agissait aussi, la collection, elle est double, elle a un double objectif, en fait, cette collection Idées reçues. C'est à la fois de déconstruire les préjugés, c'est ce que tout le monde va admettre sans réfléchir, en fait, et puis dans un deuxième temps et en même temps, c'est apporter un maximum d'informations sur un sujet. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait, c'était un peu de rassembler tout ce qu'on savait sur l'homosexualité féminine en France et en Europe, et donc de recenser un petit peu les études, statistiques, les enquêtes, etc. Il n'y en a pas énormément, donc il était bien de s'en nourrir pour le faire, quoi.
Oui.
En gros, je sais pas si j'ai très bien résumé le
Si, si, très bien, parfaitement.
Et pour le style, en fait, moi, je suis journaliste, mais je fais pas mal de vulgarisation, ce qu'on appelle vulgairement de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire prendre des sujets compliqués et pointus pour les expliquer au plus grand nombre de personnes,
ouais,
et que ce soit plutôt facile et agréable à lire. Et du coup, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment très important qu'il y ait un peu d'humour, que ce soit léger et en même temps qu'il y ait beaucoup d'informations précises et scientifiquement avérées, c'est-à-dire scientifiquement, pas forcément du côté des sciences dures, des côtés des sciences sociales aussi, mais qu'il soit vraiment précise et actuelle, quoi. Voilà.
D'accord. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est qu'il y a une partie de l'histoire, en fait, de l'homosexualité féminine.
Ouais.
Du coup, tout ça, en fait, s'est replacé dans un contexte politique. Et c'est un des côtés du livre, moi, que je trouve particulièrement intéressant. Du coup, pour vous, quand on parle de militantisme lesbien, on parle forcément de féminisme ?
Ah oui, oui, effectivement, il y a toute une dimension, évidemment, qui est la dimension études de genre, féministe, effectivement, oui, c'est très important, l'hétéropatriarcat, l'hétérosexisme, tout ça c'est déconstruit dans le livre. Militantisme lesbien égale militantisme féministe, moi je me considère aussi comme féministe, mais le militantisme lesbien, pour moi, c'est quand même quelque chose de spécifique, exactement de la même manière que la lutte contre la lesbophobie, c'est quelque chose de spécifique, c'est-à-dire que si être lesbienne, ça veut dire être à la fois femme et homosexuelle, en tout cas, voilà, ça veut dire que ça croise le genre et la sexualité. Et donc, mais ça veut dire que c'est un croisement qui est spécifique et que être lesbienne, c'est quelque chose de vraiment particulier. Donc je pense que nos luttes, évidemment, c'est bien si tout le monde lutte ensemble, etc. Et voilà, enfin, c'est des luttes qui se mènent ensemble. Mais je trouve que les luttes qu'on doit mener, nous, par exemple actuellement pour la PMA, et la lutte contre la lesbophobie, c'est vraiment des luttes dont les lesbiennes s'emparent en premier lieu, quoi. Et voilà, c'est un combat effectivement féministe, mais proprement lesbien, je dirais.
Oui, quand on lit votre livre, en fait, il y a quelque chose, en fait, qui remet les pendules à l'heure, peut-être qu'on oublie, alors sans se poser en victime, hein, mais on a vraiment l'impression que d'être lesbienne, il y a la double peine, quoi. Il y a la double peine d'être une femme et d'être homosexuelle.
Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, si vous voulez, le sexisme, je pense que le sexisme, il est transversal de toute façon à l'homophobie. Donc, vous voyez, c'est... Donc à ce titre-là, le genre traverse l'homophobie. L'homophobie, elle n'est pas neutre. Donc c'est pour ça que ça fait des spécificités pour la gayphobie et des spécificités pour la lesbophobie. Donc ça, on a pas mal travaillé là-dessus aussi dans d'autres articles, dans Nouvelles Questions Féministes notamment. Mais effectivement, par exemple, une des spécificités de la lesbophobie, et ça, on le voit bien, c'est l'invisibilité. Vous voyez, donc ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer aussi la situation, si vous voulez, des gays et des lesbiennes. À ce titre-là, c'est pareil, on n'a pas beaucoup de données comparatives, mais c'est particulièrement intéressant. Et on voit bien, tout le monde maintenant le dit, mais que la lesbophobie, une de ses principales caractéristiques, c'est notamment le silence, la censure, le fait que, par exemple, les femmes lesbiennes qui font des romans, etc., dans l'histoire de la littérature, elles ont complètement été effacées. Enfin, voilà. Déjà, l'histoire des femmes est encore à faire, mais l'histoire des lesbiennes, a fortiori, encore plus, quoi. Il y a encore beaucoup de travail à fournir de ce point de vue, quoi.
Et donc là, le livre, donc, vous disiez, c'est une troisième édition.
Ouais.
Donc la première date de 2006. Donc la troisième, 2015. Donc en gros, le livre a été mis à jour. Au fur et à mesure de quoi? De l'évolution de la société ou des nouvelles infos ou des archives que vous avez trouvées? Par rapport à quoi exactement?
Alors en fait, et là je dois dire que j'ai beaucoup de chance et je touche du bois, c'est que l'éditrice avec qui je travaille donc au Cavalier Bleu, qui s'appelle Anne-Laure Marsalex, elle vraiment est très... aime beaucoup ce livre apparemment, et en fait c'est une grande chance quand on est auteur d'avoir cette possibilité de rééditer son livre, parce que il y a pas mal d'éditeurs qui, enfin, c'est des livres de sciences humaines, donc c'est pas des best-sellers comme des Marc Lévy, etc., vous voyez, donc en fait c'est vraiment chouette quand l'éditeur vous appelle et vous dit bah voilà, je trouve que ton... alors évidemment il commence par dire je trouve que ton livre est un peu daté, bon. Parce que les références datent des années 90, dans la première édition, par exemple, pour mon éditrice qui était beaucoup plus jeune que moi, c'était vraiment les années 80, en fait, pour moi. Donc là, je me suis dit, effectivement, les années 90, en fait, ça date. Et donc, elle m'a simplement demandé, dans la deuxième édition, de remettre des références à partir des années 2000, quoi.
D'accord.
Complètement. Donc ça, c'est la deuxième édition. Et pour cette édition, qui est un grand format, là, elle m'a dit, voilà, il s'est passé beaucoup de choses autour de l'ouverture du mariage pour tous, etc. Et du coup, il faudrait vraiment refaire une édition parce que des choses ont changé du point de vue des lois, notamment, et parce qu'elle avait été elle-même choquée par tout ce qui s'était passé, quoi.
Oui,
et
d'accord.
Donc, n'étant pas elle-même, enfin voilà, n'étant pas elle-même concernée par le sujet, mais en tout cas, comme beaucoup de gens ont été choqués en France, qui militent pour l'égalité des droits des citoyens français et même de tous les citoyens, de toutes les personnes, du coup, ils ont été choqués. Et elle m'a dit aussi, bah du coup, c'est l'occasion, comme c'est un livre qui a plutôt été bien accueilli, enfin qui se vendait plutôt pas mal parmi le parmi la collection, elle m'a dit bah ce serait bien qu'on en profite pour l'agrandir, pour mettre encore plus d'infos sur des sujets comme la santé, comme le cinéma, la littérature, parce que finalement il y a eu beaucoup de choses ces 10 dernières années,
oui,
en fait,
quoi. Oui.
Et du coup c'est aussi pour cette raison là qu'on s'est dit il faut refaire une édition.
D'accord.
Ouais, parce qu'il y a eu pas mal de changements, pas mal de films. Il y a eu La vie d'Adèle qui a obtenu la Palme d'Or. Enfin, tout ça, c'est quand même. Enfin, voilà, même si c'est pas fait par une femme, c'est sur grand écran, c'était quand même.
Oui.
C'était quand même important, quoi.
En termes de.
De visibilité. Voilà.
Oui, voilà. Ouais.
Mais par ailleurs, il y avait beaucoup, beaucoup d'autres choses et beaucoup. Céline Sciamma. Enfin, il y a eu des coming out de personnalités femmes lesbiennes. Il y a eu plein de choses. Donc, c'était vraiment. Chouette et très important d'avoir cette possibilité. Ouais.
Okay. Disiez au début, quand vous avez commencé, donc en 2005, donc si je ne me trompe pas, à travailler sur l'écriture du livre, vous n'aviez pas trouvé beaucoup de travaux en fait, qui existaient déjà sur le sujet. Après, aujourd'hui, quand même, on voit quand même pas mal de chercheurs. Je sais pas, d'historiens, de psychiatres qui ont travaillé sur cette thématique, sur la même thématique que vous. Je voulais savoir en fait s'il y avait des chercheurs et d'autres auteurs que vous avez contactés qui vous ont aidé et soutenu en fait dans l'écriture de votre livre.
Effectivement, aussi en 10 ans, quand on tourne pas mal comme ça, on rencontre des gens qui travaillent sur des sujets connexes, enfin, on voit sur le même sujet.
Oui.
Et par exemple, une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Natacha Chetcuti, dont je recommande également le livre, qui est sociologue,
oui.
Et qui a publié Se dire lesbienne, qui était sa thèse, en fait. Quand je l'ai connue en 2005, c'était la première personne, il y avait Marie-Jo Bonnet effectivement aussi, mais les travaux de Natacha Chetcuti portaient notamment sur les masculinités. Et donc, moi, je l'avais contactée à ce moment-là. On avait un peu travaillé ensemble. Enfin, voilà, elle m'avait posé des questions également sur, pour sa thèse. Et puis, bah, aujourd'hui, elle a publié Se dire lesbienne. Elle continue, ça fait elle aussi beaucoup d'années qu'elle travaille sur ce sujet. Donc, son livre, qui est constitué notamment de témoignages, c'est plutôt du, ce qu'on appelle du qualitatif. Ça a permis de, ça a permis de nourrir aussi mon livre et mes recherches. Et pareil pour les enquêtes de SOS Homophobie. Où je suis toujours, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et là, l'association a publié une deuxième enquête lesbophobie. Moi, j'avais fait également partie de la première. Mais cette deuxième enquête a été menée par des jeunes sociologues qui sont arrivés dans la SOS il y a un ou deux ans. Et en fait, elles voulaient également mesurer la visibilité dans cette nouvelle enquête, c'est-à-dire lier lesbophobie et visibilité des lesbiennes. Est-ce que ça avait un rapport? Et tout ça, bah oui, il y a des forces vives de toute façon dans la recherche. Et qui permettent, grâce à des rencontres de, ben voilà, de, puis il y a eu Martine Gross aussi qui publie sur le mot parentalité très régulièrement dans la même collection d'ailleurs. Elle a publié un bouquin qui s'appelle Parents ou homo, faut-il choisir? Idées reçues sur le mot parentalité. Enfin, ouais, il y a, c'est, puis voilà, on rencontre les gens à la faveur de débats ou de choses comme ça, et puis du coup, on peut échanger. Les recherches commencent à être un peu plus visibles, en effet, en France, sur ces sujets-là.
Et donc, pour revenir sur la visibilité de l'homosexualité féminine, est-ce que vous pensez, donc on parlait des médias tout à l'heure, des séries télé, etc., des célébrités qui ont fait leur coming out, vous pensez que les médias font-ils tout pour la visibilité? Ils ont un rôle prépondérant, mais est-ce que vous pensez que ce sont les seuls, en fait, qui peuvent faire quelque chose pour une meilleure visibilité lesbienne?
Ah, je pense qu'il y a... En fait, je pense que c'est un faisceau de facteurs, mais quand on avait fait la première enquête, on avait demandé aux femmes à SOS, qui s'appelait Enquête sur la lesbophobie, on leur avait demandé ce qu'il fallait faire, en fait, ce qu'elles pensaient qu'on pouvait faire. Effectivement, elles avaient répondu la visibilité des personnes dans les médias, c'était très important dans leur réponse, et puis en dessous, il y avait la visibilité individuelle, si je me souviens bien. Et en fait, voilà, en gros, il y aurait presque trois pôles. Il y a la visibilité dans les médias, il y a la visibilité des personnes public politique par exemple aussi, voilà, des personnes qui ont un, je sais pas, mais ça peut être également des humoristes, des sportifs, hein. On avait Amélie Mauresmo qui a énormément contribué, il y a déjà un moment, en 99, c'était vraiment très très courageux de sa part. Et puis bah moi je suis quand même aussi très comment dire, convaincue par la puissance de la visibilité individuelle, en fait, mais c'est-à-dire de chacune d'entre nous. Mais voilà, après il n'y a pas d'injonction évidemment à sortir du placard. Bon, c'était déjà ce qui s'est passé dans les années 70, déjà dans les mouvements de lutte LGBT, la question de la visibilité individuelle était déjà très importante, mais parce que les gens en avaient marre aussi d'être obligés de se cacher, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc sortons du placard, c'était vraiment le mot d'ordre à ce moment-là. Je pense que ça peut quand même beaucoup jouer. Il y a eu aussi le changement des lois, et puis aujourd'hui c'est l'homophobie qui est condamnée, ce qui n'est pas forcément le cas il y a 30 ans. Voilà, c'était
l'homosexualité qui était condamnée, quoi.
Voilà, la victime aujourd'hui, entre guillemets, si dans, enfin, la personne qui est agressée, en tout cas, c'est bien la personne LGBT qui est molestée par la personne homophobe et plus l'inverse. Et ça nous rend quand même, on a plus de légitimité, plus de force. En tout cas, en France, c'est un des pays où il est quand même possible aujourd'hui de vivre ouvertement. Voilà. Alors évidemment, je suis bien placée pour savoir, SOS Homophobie, qu'il y a encore énormément de... Voilà.
Donc il y a encore du travail.
Voilà. Chacun doit mesurer, chacune doit mesurer les risques que ça provoque. Il ne s'agit pas de conseiller à tout le monde de prendre des risques. Voilà.
Oui.
Mais c'est quand même important de... Parce que quand on est out, en fait, quand on est visible... ça fait aussi évoluer les mentalités, parce que les gens... C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mon bouquin au départ, quoi. C'est-à-dire que je voulais aussi... Enfin, tout bêtement, au début de ma carrière lesbienne, je voulais simplement montrer qu'en fait, on était normal, quoi. Enfin, vraiment, c'était pas la peine de se cacher, qu'on avait rien à se reprocher, qu'on avait vraiment... qu'on pouvait vivre complètement, que c'était pas honteux d'aimer une femme, enfin, quand on aime une femme, quoi. C'était tout bête, en fait. Mais bon, il y a des gens qui le prennent pas comme ça, apparemment.
Non, mais Il faut encore. Moi, c'est ce que je disais. On en avait parlé avec donc Gérard qui est à côté de moi. Que oui, les médias jouaient un rôle important dans la visibilité. Parce que forcément, on est tous plus ou moins connectés à la télé, au smartphone, à Internet, où on est bombardé de nouvelles. Et donc, forcément, quand on suit les actualités, il y a forcément en ce moment. Un coming out par mois, j'exagère un peu, mais bon, je pense pas que j'en sois loin. Donc c'est très bien. Mais donc on était d'accord sur le fait que aussi chaque lesbienne devait un peu se remonter les manches et aussi se battre pour elle-même, quoi, en gros. Et Gérald, tu voulais ajouter quelque chose, non ?
En fait, non, c'est juste une question que je voulais poser, oui. Une question connexe en fait à votre discussion.
Mais je t'en prie.
Mais si tu veux terminer,
t'es bon, vas-y.
Voilà. En fait, moi, je suis toujours très intéressé par les questions d'histoire. C'est un secret pour personne. Et je sais que ce soit la coordination lesbienne ou le collectif lesbien lyonnais, donc ici à Lyon, font du travail sur les lesbiennes durant la Seconde Guerre mondiale. Que ce soit en tant que soldate, déportée, militante, oui, résistante, mais aussi par rapport à la déportation. Parce que la déportation homosexuelle, c'est une chose dont on parle depuis quelques années de façon sérieuse. Des historiens ont fait des études, etc., plus sérieuses en tout cas. On arrive à avoir des chiffres concernant l'homosexualité, mais donc on sait qu'en Allemagne, notamment sous le Troisième Reich, l'homosexualité était donc pénalisée et que des homosexuels ont été internés en camp de concentration. Mais souvent, il est dit, et dans ces recherches concernent essentiellement les hommes. Mmh. Alors, justement, le collectif lesbien lyonnais, par exemple, à travers une série d'actions actuelles, veut mettre aussi en avant un petit peu aussi le sort des lesbiennes durant la Seconde Guerre mondiale. Et est-ce que vous, justement, Stéphanie, vous avez... ce sujet vous intéresse déjà ?
Oui, complètement. En fait, c'est vraiment d'actualité pour moi parce que je m'en suis emparée, entre guillemets, il n'y a pas très longtemps. C'était un petit peu quelque chose que j'avais pas forcément creusé. Et puis, en l'occurrence, cette année, à la faveur notamment de tout ce qu'on a pu voir sur le 70e anniversaire, etc., c'est quelque chose que, dans les médias, justement, il y a beaucoup, beaucoup d'émissions sur ces questions-là de la Shoah, de la déportation, de la guerre, etc. Donc, du coup, je sais pas, je me suis dit, tiens, il faut vraiment qu'on commence à... Enfin, il y a déjà des chercheuses qui ont commencé, Claudia Schopmann en Allemagne, notamment, qui est une des premières. Et puis, il y a eu un colloque au CNRS, il n'y a pas très longtemps, sur la question des homosexuels en temps de guerre. J'ai moi-même, du coup, couvert le colloque pour le journal du CNRS où je travaille, et puis, notamment où je travaille. Et du coup, j'ai publié un article qui est... on peut tout voir, enfin mon actualité on peut la suivre sur Facebook, sur mon Facebook Stéphanie Arc. Et du D'accord. coup j'ai mis cet article en ligne là sur les homos en temps de guerre. Et puis du coup durant la Seconde Guerre mondiale, et du coup bah effectivement je me suis surtout intéressée je me suis notamment intéressée à la question des femmes au cours de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'effectivement alors et du coup en creusant j'ai appris des choses que je savais pas du tout, c'est-à-dire que si l'homosexualité féminine n'était pas condamnée par le code pénal allemand, elle l'était en revanche par le code pénal autrichien dans le paragraphe 129, et en fait qui condamne au même titre les hommes et les femmes. Et du coup c'est à cet égard qu'un certain nombre d'entre elles ont été en tout cas emprisonnées en Autriche. Et, voilà. Alors, ce qui concerne la déportation, il y a effectivement une 14 cas avérés pour l'instant dans les camps de concentration, c'est-à-dire de femmes qui étaient déportées à cet égard en premier chef qui portaient.
D'accord.
Qui étaient écrites, c'était déportées lesbiennes sur le registre, parce que c'est sur les registres en fait d'entrée.
Donc, il reste encore une histoire à faire et à creuser concernant les femmes homosexuelles.
Complètement, ouais.
Pendant et ça, la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, complètement. Donc là, je me suis attelée effectivement à cette tâche, mais c'est un énorme travail d'historien, je pense. Et puis, il y a déjà des pistes qui ont été créées. Alors, Claudia Schopmann, qui a écrit ce livre, qui n'est pas traduit en français, mais je pense qu'il va bientôt l'être, j'espère, dit qu'effectivement, il n'y a pas eu de lesbiennes déportées, ou peu, enfin, que c'était vraiment pas... c'est sûr que c'est pas en même mesure que
ouais. Ou alors quand il y a eu des déportations de femmes lesbiennes, c'était peut-être sous d'autres critères, mauvaise humeur, je sais pas, ils avaient tellement de critères épouvantables.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elles étaient déportées au titre de femmes juives ou de femmes résistantes, d'opposantes politiques. Parce qu'en fait, l'homosexualité féminine, comme, encore une fois, et c'est pour ça que la plupart des gens, et c'est une des parties de mon bouquin, on pense que c'est plus facile d'être lesbienne que d'être gay, parce qu'elle était pas considérée comme aussi menaçante, notamment pour le Reich, notamment parce que... j'ai lu des choses écrites par les nazis là-dessus, enfin, sur, ils écrivent noir sur blanc qu'une lesbienne, elle peut quand même procréer, vous voyez, c'est pas parce qu'elle aime les femmes qu'elle ne peut pas... elle peut pas avoir une intercourse comme ils disent en anglais, donc du coup
rapport sexuel
voilà, donc elle prend sur elle quoi, enfin de toute façon on s'en fout, c'est une femme juste un réceptacle pour porter les ariens, les petits ariens, donc voilà, en gros je pense que c'est beaucoup lié à ça, c'est moins une menace pour l'ordre social, donc c'est considéré comme
D'autant plus que ce qui est intéressant dans ce, je vais cesser ma petite intervention. Mais, nous, on a déjà parlé ici d'une ville qui s'appelle Berlin, on aime bien. Et à Berlin, on avait évoqué le Berlin de l'entre-deux-guerres, le Berlin de la République de Weimar. Et à Berlin, il y avait une grosse visibilité homosexuelle, mais il y avait la particularité, il y avait une grosse visibilité lesbienne à Berlin. Et donc, finalement, les nazis sont arrivés là et ils pouvaient très bien, piocher dans le tas et puis récupérer des gens qui, pendant 20 ans, ont pu, avant le 1933 en tout cas, créer une subculture, comme on dit, gay et lesbienne notamment. Et j'insiste sur le mot lesbienne, puisqu'elles étaient très importantes, très influentes. Il y avait beaucoup de lieux, magazines, etc., lesbiens, pour les femmes qui aiment les femmes. C'était donc quelque chose d'important. L'homosexualité féminine en Allemagne entre les deux guerres.
Du coup, on se demande, s'il n'y avait pas eu la guerre, comment cela aurait évolué et peut-être qu'il y aurait aujourd'hui une meilleure connaissance, on va dire, de l'homosexualité féminine et peut-être une évolution qui aurait pu, une évolution des mentalités de la société qui aurait peut-être pu venir plus tôt, on ne sait pas. Enfin, du coup, on ne saura jamais, mais...
Ce qui est sûr, c'est que effectivement, même si elles n'ont pas clairement été déportées, etc., ça a complètement brisé, je pense, à ce moment-là, les réseaux qui existaient de solidarité de femmes, d'associations, de clubs, de cabarets.
De toute façon, les lieux ont fermé au fur et à mesure les uns après les autres. Donc,
Alors apparemment, d'après ce que j'ai entendu au colloque, les Allemands conservaient laissaient en place certains cabarets gays, etc., parce que du coup, c'était comme des souricières, en fait. C'est-à-dire que les gays continuaient à sortir dans ces endroits-là, et puis alors ils allaient les chercher directement.
Ils pouvaient directement, comme je disais, à la source. On a parlé aussi de mariages blancs, souvent mariages arrangés entre femmes lesbiennes et hommes homosexuels sous le Troisième Reich, justement, pour échapper un petit peu au couperet du nazisme. C'est tout ce que je voulais dire.
Très bien, mais je te remercie, Gérald. Toujours très intéressant. Tu interviens quand tu veux. Alors, on va remercier Stéphanie. Vous aviez autre chose à ajouter, Stéphanie ?
Je suis ravie en tout cas d'avoir participé à votre émission. Et puis,
merci à vous d'avoir accepté l'invitation.
Pas de problème.
L'occasion de vous connaître un petit peu mieux et aussi de vous faire mieux connaître des auditeurs et des auditrices. Je rappelle donc qu'il y a l'article aussi dans Hétéroclite.
Il y a l'article dans Hétéroclite. Donc sur le livre.
Très bon article d'ailleurs. Très bon article.
Sur le livre de Stéphanie Arc, donc Identité lesbienne, en finir avec les idées reçues aux éditions Le Cavalier Bleu.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Stéphanie. Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir. Bonne soirée.
Voilà, donc, très intéressant, ma petite Lolo. Voilà, puis c'est bien quand on parle un petit peu d'homosexualité féminine à l'antenne. Moi, j'aime bien.
Oui, ça fait du bien, parce que vu que t'es un petit macho...
Voilà, c'est ça. Alors, pour revenir...
J'aime bien caser ça.
Ouais, je sais. Tant pis, j'assume complètement mon côté macho. Donc, du coup, la thématique récurrente maintenant que nous allons poursuivre, on a dit que c'était, on a parlé de transgenre au début de l'émission. D'ailleurs, on écoutera un morceau en fin d'émission que tu nous as apporté et qui relie les deux thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, le transgenre et le lesbianisme. Nous verrons pourquoi, nous laissons le suspense jusqu'au bout. En attendant... On avait pensé mettre... Alors, quelqu'un qu'on aime beaucoup, tous ici, je sais, c'est Jean-Guy Denis. C'est un chanteur des années 70-80.
Jean-Guy Denis ?
Jean-Guy Denis.
Je suis désolée, je ne connais pas Jean-Guy Denis.
Jean-Guy Denis, pour moi, c'est un grand nom de la chanson française, Bernard. Ah, oui, d'accord. C'est vrai, c'était quelqu'un de très important pour la chanson. Alors, certes, qui restait...
Il est encore en vie ?
Oui, tout à fait. D'accord. Oui, et il continue d'ailleurs à produire des choses qui sont intimistes, certes. Jean-Guy Denis a quand même eu...
Certes.
Jean-Guy Denis, au début des années 80, pendant les années 80, a quand même eu des coups de projecteur des médias. D'accord. On a pu le voir quand même dans des émissions, grand public, etc.
Ah, peut-être que je connais sans le savoir.
Voilà. Et Jean-Guy Denis, donc, qui ne cachait pas son homosexualité, qui en a fait même le thème, un thème récurrent dans beaucoup de ses chansons. En l'occurrence, la chanson que nous allons passer maintenant concerne donc le travestissement, le transgenre. Jean-Guy Denis, c'est parti, mon kiki. T'as vu, ça rime en plus.
J'ai senti les premiers symptômes il y a 6 semaines environ. J'étais devenu un fantôme, tous mes amis vous le diront. Je n'avais plus le goût de rien, aucun goût sur la langue, et moins loquace que mon chien. J'oubliais lentement ma langue. Un matin où je me traînais d'un atome à l'autre sans but, j'ai cru soudain qu'on me freinait, qu'on me ramenait au début. Entre la douche et la baignoire, guidé ou sous hypnose, j'ai laissé glisser mon peignoir et j'ai aperçu quelque chose. Les premiers émois, il y a 6 semaines environ, je n'avais jamais eu que moi, au creux de mon propre giron. Mais ce jour-là, couvert de sueur, de vapeur mélangée, dans mon reflet comme une sœur, j'ai vu combien j'avais changé. Bien sûr, ce corps était le mien, j'étais un homme, un mal, un vrai. Pourtant, à me regarder bien, j'ai compris ce qui m'arrivait. Les yeux brillants, la peau dorée, la nausée sous les seins, l'envie de rire et de pleurer, voilà, j'étais enceinte.
Pluriel, 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 pluriel.
Yeah. Donc Jean-Guy Denis.
Mais c'est pas mal.
C'est très bien.
C'est même plus que pas mal, c'est
voilà.
Bien.
Et je conseille à tous les auditeurs qui voudraient découvrir de le faire parce que ça vaut le détour. Ça vaut le détour sonore.
Il n'y a pas beaucoup
musical.
D'infos sur lui sur le net,
oui.
Par contre.
Ah, si, on peut en trouver quand même, oui, Jean-Guy Denis. En plus, il a une actualité encore. Bon, c'est vrai qu'une actualité qui n'est pas très médiatisée, mais il continue à sortir des disques, à écrire, parce qu'il est aussi parolier. Voilà.
Très bien. Ouais. Très bien.
Voilà, donc c'était Jean-Guy Denis. Alors pourquoi je parlais de transgenre au début ? Parce que moi je veux parler, je tiens à parler d'une pièce de théâtre qui actuellement démarre ce soir d'ailleurs au Carré 30 à Lyon. Donc je redonnerai l'adresse du Carré 30 à la fin. Alors c'est une compagnie, une petite compagnie, enfin en tout cas une jeune compagnie qui s'appelle Nisos, c'est une compagnie de Béziers. Qui monte une pièce de copie qui s'appelle Le Frigo. Alors, avec un metteur en scène et un acteur, c'est la même personne. Léo Redola s'appelle-t-il. Alors c'est vrai que comme nous le disais, je le disais en début d'émission, nous avions eu des problèmes techniques, sinon nous l'aurions eu au téléphone la semaine dernière. Mmh. Le problème c'est que ce soir, ben, il commence le spectacle à 20h30, donc ça a déjà commencé d'ailleurs. Donc voilà, il aurait bien aimé, mais il ne pouvait pas. Alors moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise ? Alors, il m'a dit simplement reprendre les termes de Hétéroclite. De l'article qui est paru dans Hétéroclite au mois d'avril, parce que j'ai trouvé très bien. Donc, c'est ce que je vais faire.
Très bien.
Je ne vais pas m'embêter, je vais relire un extrait de l'article d'Hétéroclite.
Tu citeras la source, hein. L'auteur des lignes.
Ouais. Alors, néanmoins, je voulais parler quand même de copie vite fait, parce que l'heure tourne. Mais c'est important, parce que peut-être que des personnes ne le connaissent pas ou le connaissent un petit peu comme ça. Copie, c'est quelqu'un qui a sévi, je dirais, dans les années 60, 70 et 80, en France. Il est décédé en 1987 du sida. Et il est arrivé en France, en fait, il avait 24 ans, c'était en 1963. Son origine, c'est Argentine, il est argentin. Et en fait, il a rejoint la communauté argentine de Paris dans les années 60, pour des raisons politiques. Son père avait fui donc, le coup d'État en Argentine en 1943, et lui a fait une partie de sa vie en Uruguay, et ensuite il est venu vivre, donc, comme je le disais, en 63 en France, où il a commencé comme dessinateur. Dessinateur, donc il est connu en tant que dessinateur humoristique, notamment pour un personnage qu'il faisait paraître, c'est dans le Nouvel Obs, voilà, qui faisait paraître dans le Nouvel Obs, qui était le personnage d'une dame assise sur une chaise avec un gros tarin, des cheveux filasses, noirs, et c'était un dessin très épuré, très minimaliste, et qui était assise sur une chaise et qui faisait face à un petit volatile. Alors lui, il le qualifiait de poulet, le volatile. On voit que c'est un oiseau, on ne peut pas définir quand même ce que c'est. Et il s'engage toujours un dialogue entre cette femme qui reste toujours dans la même position et l'oiseau. Et c'est un dialogue, c'est de l'humour à froid. Et c'est un humour qui fait beaucoup penser à ce qu'a fait plus tard Gay-Luc, je ne sais même plus comment dire, avec le chat. C'est le chat.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Ça, moi, ça me fait beaucoup penser au chat. Le même côté un peu figé du chat qui lui est face au spectateur. Là, c'est cette petite bonne femme, cette grosse bonne femme qui est assise dans une chaise avec le volatile, avec un dialogue qui s'engage sur des choses, on va dire, existentielles de la vie, mais sous une forme très d'humour, de dérision et d'humour à froid, je dirais, qui marche très bien. Qui marchait très bien à l'époque. Et moi, copie, c'est d'abord ce qui me vient à l'esprit quand on parle de copie, quand j'en entends parler, en tout cas, c'est le côté dessinateur humoristique et son personnage de petite bonne femme et de son volatile. Et en fait, copie, c'est aussi, il a aussi collaboré à beaucoup à Charlie Hebdo à l'époque, à Harakiri, Paris Match, Libération. Il a vraiment un gros, c'était vraiment un dessinateur humoristique de grande ampleur, je dirais, hein. Et mais en fait, Copy, maintenant, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est reconnu comme avant tout un auteur de théâtre. Et alors, il a écrit du théâtre, il a écrit, j'ai noté 22 pièces de théâtre, qui lorsqu'elles ont été jouées à Paris, souvent c'était des pièces qu'il écrivait, qu'il jouait lui-même, des pièces où, qui n'étaient jouées que par, il y a plusieurs personnages, mais jouées par un seul acteur. Pas toutes, mais beaucoup sont comme ça. Donc lorsque c'est chaque fois qu'une pièce était montée, on parlait toujours de subversivité, de provocation. C'est ce qui plaisait à l'époque dans les années 80. On aimait pas. Il y avait des articles dithyrambiques, d'autres qui étaient plutôt. En général, la presse de gauche était plutôt dithyrambique. La presse de droite, telle Le Figaro, par exemple, avait tendance à casser le spectacle en disant c'est d'une vulgarité.
Pour ne pas le citer, Le Figaro.
Voilà. Voilà. Et puis il se trouve que les années ont passé et soudain, est devenu quelqu'un de. Enfin, il est mort. Hein. Parfois, on est reconnu quand on est mort. Je ne sais pas si tu as remarqué.
Oui,
et soudainement, son théâtre a été exploré, exploité par beaucoup de gens. Alors, Copy avait la chance de connaître beaucoup de grands pontes, je dirais, du théâtre à l'époque, puisqu'il était ami avec Alfredo Arias, avec les Argentins. Hein. Alors, Alfredo Arias, metteur en scène, avec le Jorge Lavelli, qui est un des plus grands metteurs en scène argentins. Installé à Paris, qui est un metteur en scène et en plus qui a été directeur de théâtre, etc. C'est un homme majeur comme Patrice Chéreau l'était pour la création théâtrale contemporaine. Il était d'ailleurs aussi ami avec Patrice Chéreau, Jérôme Savary aussi. Et c'est des gens qui ont monté des pièces qu'il était ami avec eux, mais il commentait des pièces parce qu'il sentait que dans ses pièces, dans son texte, il y avait quelque chose à faire. À tel point que les gens s'en sont emparés, ont étudié, regardé les textes et regardé les écrits de copie, à tel point qu'on en est arrivé à le comparer, alors peut-être que c'est excessif, je sais pas, on dit que c'est un mélange de Jean Anouilh et de Oscar Wilde, par exemple. On parle aussi de Genet, et c'est devenu une sorte, les textes de copie sont devenus une sorte de, presque de passage obligé, hein, de la création théâtrale, parce que c'est difficile à monter, parce que ça, encore une fois, c'est un humour à froid, et surtout parce que c'est un exercice de style qui peut se jouer sur plusieurs gammes, mais qui est très difficile. Et c'est le pari qu'a pris Léo Redola. C'est pas la première fois que Le Frigo est monté, donc c'est qu'une de ses pièces de copie, s'appelle Le Frigo, qui a été créé en 1983, qui a été joué d'abord par copie lui-même, qui a été monté plusieurs fois depuis les débuts des années 2000. Et pour retracer le décor très rapidement, c'est très sobre, hein, toutes les pièces de copie, c'est pas un truc à grand spectacle, on n'a pas besoin de décors fastueux. En l'occurrence, le seul décor dont on a besoin, c'est un frigo. Qu'est-ce qui se passe? Un frigo qui débarque. C'est pas la première fois qu'on utilise le thème d'un objet qui arrive dans la vie, un objet ou quelque chose qui arrive dans la vie d'une famille, d'une personne, et qui bouleverse sa vie. Souvent qu'il bouleverse pour l'amener à complètement extérioriser, exploser ce qu'il y a en lui. Et c'est ce qui se passe. Le frigo, c'est un cadeau qui est offert par une maman à son fils qui est transgenre, qui est une femme transgenre. Voilà. Fils-fille, donc. Le frigo arrive et soudain, ce frigo a, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, la pierre de basalte qui tombe d'un seul coup au milieu des singes et les singes commencent à apprendre la civilisation. Et bien, le frigo, c'est un peu ça. C'est cette pierre qui arrive comme ça, rectangulaire, au milieu de la pièce et soudain, le frigo a une action sur le personnage et le personnage se transforme, se démultiplie en des dizaines de personnages. Il joue différents personnages qui ont eu de l'importance dans sa vie, que ce soit sa mère, que ce soit le psy, parce qu'évidemment, il a suivi une psychiatrie, que ce soit toutes sortes de choses, toutes sortes de personnages, même des animaux, etc., qui sont entrés dans sa vie. Ce qui fait que le même acteur joue une série de personnages qui, en plus, sont liés les uns aux autres dans une intrigue. Et il y a donc une véritable intrigue, c'est une vraie pièce de théâtre, avec une intrigue à tiroir, je dirais, avec des personnages joués par le même acteur, donc prouesse, avec les transformations que ça nécessite aussi sur scène.
Donc, tu es en train de me dire que Guillaume Gallienne n'a rien inventé avec son garçon les Guillaume à table, là, je sais pas quoi.
Ah, rien du tout. Okay. Ah, bah non. D'autant plus
on se doutait de quelque chose. Voilà. Mais là,
mais là, c'est une prouesse théâtrale.
Oui,
en plus,
bien sûr.
Sur
plus,
scène. Voilà.
En direct.
Et le jeu de l'acteur a une importance primordiale, puisqu'en plus, le décor est minimaliste. L'acteur peut utiliser, le metteur en scène et l'acteur peut utiliser des accessoires. Mais là, sur la scène, notamment, les accessoires, c'est très minimaliste. Il y a des mannequins. Et des mannequins, tu sais, pour des vitrines de magasins.
Oui.
Et le frigo, parce que le frigo, c'est indispensable. Alors, j'avais noté ce que Copy avait dit, si j'arrive à retrouver dans mes notes, parce que là, de mémoire, je ne peux pas citer ce que Copy avait dit au sujet de sa pièce. Donc, il avait parlé d'une vision d'un personnage solitaire qui était hanté par l'idée de la vieillesse, de la mort, etc. Donc, avec l'arrivée de ce frigo qui vient interagir sur ce personnage et l'explose complètement, donc le personnage explose sur scène, c'est le cas de le dire. Alors Copy en parlait très bien de son personnage, mais alors j'avais noté une critique de Libération concernant cette pièce et concernant l'œuvre de Copy en général, qui disait que les pièces de Copy se fichent du réalisme mais sont étrangement sous influence classique. Et c'est là que la critique théâtrale reconnaît donc légitimise à quelque part le travail de Copy, parce que déjà on a tout dit sous influence classique.
Oui.
Et quand on cite Jean Anouilh ou Oscar Wilde, ils sont considérés comme des classiques. Il y en a qui parlent de Beckett aussi, enfin, vraiment c'est très dithyrambique tout ça, hein. Alors ce que Libération dit, c'est un article récent, c'est même sans doute l'une des clés de la longévité de l'œuvre théâtrale de Copy. Alors que personnages et expressions sont dans l'air de leur temps, à savoir les années 80 essentiellement, la construction est d'une solidité intemporelle, une mécanique de précision proche du vaudeville, avec des rebondissements à la chaîne et une logique de l'action qui résiste aux situations les plus absurdes. Et c'est de là qu'il cite, on dirait Jean Anouilh, on dirait Beckett, Tchekhov. Alors là, Tchekhov, c'est le comble, hein. Je crois que même Copy n'accepterait pas. Si t'es vivant, qu'on le compare à Tchekhov, j'en suis sûr. Voilà, en tout cas, Léo Redola de la compagnie Nisos est un de ceux qui a décidé de monter cette pièce, de s'attaquer à la pièce, parce qu'on s'y attaque vraiment. C'est une prouesse théâtrale, une prouesse artistique. Et donc, c'est au Carré 30. Ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche. La compagnie, je l'ai dit, Nisos, l'acteur, donc Léo Redola, qui est donc seul en scène. Seul, mais pas seul, puisque c'est schizophrénique. Hein, c'est plein de personnages en même temps, avec son frigo. Voilà, il est là, il est metteur en scène en même temps, il est acteur et metteur en scène. Et justement, comme il pouvait pas venir, je disais, bon ben voilà, qu'est-ce que je pourrais dire sur ta prestation, sur votre prestation. Je le vous vois, je ne le connais pas personnellement. Et il m'avait dit, ben, il suffit de reprendre un extrait de l'article d'Hétéroclite, et il m'a envoyé l'extrait en question en disant que c'est l'article qui va exactement, parle exactement de mon spectacle tel que je l'ai pensé, exprimé, et c'est exactement ça.
Ils sont forts chez Hétéroclite.
Ben, ils sont très forts. Donc je lis. Je lis.
Je t'en prie.
À n'en pas douter, la jeune compagnie Nisos Théâtre basée à Béziers et emmenée par Léo Redola ne manque pas de courage pour s'attaquer dès sa première création à la célébrissime pièce de copie. Le frigo dont elle offre la primeur au public lyonnais du Carré 30. D'après le nom de la compagnie, le choix ne semble cependant pas si hasardeux. En effet, dans la mythologie grecque, Nisos est le père de Dionysos, dieu du théâtre et des excès. Dans Night Angels, une trilogie de romans de fantasy écrit par l'américain Brent Twiggs, c'est aussi le dieu du sperme, du vin et du sang. Voilà. Voilà, bien. Je ne sais pas si quand ils ont créé la compagnie, ils ont pensé à tout ça, mais en tout cas, ouais, c'est bien replacé dans le contexte historique et mythologique. Un univers qui ne semble pas si éloigné de la pièce du dramaturge argentin. C'est là qu'on revient à notre copie. Seul en scène et avec une grande économie de moyens, un micro qui rappelle les chanteuses des années 1950, des mannequins de vitrine, un fauteuil et un panneau qui représentent le fameux frigo autour duquel tourne l'intrigue, Léo Redola incarne elle. Le personnage s'appelle elle, elle avec un point. Le personnage au genre fluctuant imaginé par copie. Et les démons qui la hantent, l'obsèdent et la persécutent. Influencé par le travail de Michel Faux et d'Olivier Py. Alors encore une fois, là, on est aussi dans les grandes références du théâtre. Tous deux maîtres du travestissement, le jeune acteur et metteur en scène dit s'être intéressé au frigo en raison de la marginalité du personnage principal. La pièce, sans défendre ni accabler elle point, donne en effet à voir la solitude et la grande fragilité du personnage, derrière l'excentricité et la flamboyance. Léo Redola confie en outre que cette expérience de la marginalité le renvoie à sa propre homosexualité et au changement de statut qu'a pu générer son coming out, alors que la pièce est propice à l'excès. Léo Redola a choisi de travailler les purs afin de rester le plus fidèle possible au texte. S'il y a bien des perruques, des tenues extravagantes, de l'emphase et des maquillages à outrance, il ne s'agit pas de transformer elle, point, en bête de foire, mais bien de rendre compte des difficultés existentielles du personnage. Derrière les savoureuses envolées, camp, grince, l'amère tragédie. Joli texte. Et Léo Redola me disait...
Magnifique, bravo. Magnifique,
bravo. Et Léo Redola me disait, voilà, ça correspond bien à ce que je fais, ce que je veux faire montrer sur scène. Voilà, donc...
C'est qui l'a écrit celui-là? C'est Stéphane?
Ben, je ne sais pas du
Stéphane
tout.
Stéphane Caruana?
Stéphane Caruana.
Je suppose.
Très probablement. Voilà. Voilà, en tout cas, il faut aller le voir, c'est au Carré 30. J'espère que ça donne envie d'y aller. Carré 30, 13 oui. Rue Pizet, Lyon 1er. À partir de ce soir, c'est jusqu'à dimanche. C'est joué... le soir à 20h30 jusqu'à samedi, et dimanche, la dernière représentation dimanche 3 mai, c'est à 17h30 au Carré 30. Voilà, donc on n'aura pas le temps de rajouter grand chose. Guillaume et les garçons, c'est vrai que tu faisais peut-être illusion à la pièce aussi, parce qu'il n'y a pas que le film, il avait
oui.
Fait... Oui, non, mais oui, peut-être.
Mais du coup.
Mais il s'est inspiré.
Non, mais.
Il s'est inspiré oui. De copie. Non, j'en sais rien. J'sais
non, mais peut-être.
J'ai pas vu la pièce, paraît que c'était bien. Paraît que c'était quand même une prouesse aussi. Hein.
Ce qu'il faisait, non, mais je dis pas Gagnon. Que. Je voilà. Dis pas oui, c'est sûr. C'est
là,
une
ça
prouesse,
part un
quoi.
Peu comme ça. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Si, il faut que ça le soit parce que c'est tout dans la prestation, dans le jeu de l'acteur, c'est très important. Mais bon, le fait de des personnages, un personnage qui joue plusieurs personnages, c'est pas une nouveauté dans le théâtre.
Oui, par bien contre, sûr.
Guillaume Gallienne ou d'autres, oui. Etc. Voilà. Donc, du coup, ben, on va conclure l'émission puisque l'heure tourne. Et on parlait tout à l'heure de transgenre. Et de lesbiennes qu'on pouvait associer, puisque là tu nous as prévu
oui,
donc une chanson, un titre
une chanson,
qui relie les deux thèmes en fait. Et comment se fait-ce?
Oui, alors en fait j'ai trouvé une chanteuse qui s'appelle Titika, qui est une chanteuse trans lesbienne angolaise. En gros, c'est l'étoile montante de la scène musicale en Angola.
Ouais.
Elle a 25 ans, C'est super étonnant en fait qu'elle cartonne, parce que bon, bah, en général dans les pays d'Afrique il y a encore il y a surtout la religion là-bas, la religion catholique en fait qui est très présente, mais en même temps en Angola, alors normalement l'homosexualité est pénalisée mais les sanctions ne sont pas appliquées.
D'accord.
Du coup, alors vu que Léa dit qu'on a coupé, donc on va couper. Du coup, elle arrive quand même à se faire connaître. Elle a un succès, mais monstre. Mmh. C'est la star en Angola en ce moment. Et donc, je ne sais même pas si on va pouvoir écouter la chanson, du coup.
Oui, on a le temps. On a 2 minutes, là, encore.
Voilà, donc, si on peut, voilà, écouter la chanson. Donc, j'ai un très mauvais accent portugais. Olia o Boneco. Regardez le jouet. D'accord. Voilà. Le style de musique, je tiens quand même à le dire... c'est du kuduro. C'est un style musical qui est né en Angola, qui mélange du rap, de la techno et des rythmes africains.
Très bien. Voilà. Bon, ben, va pour le kuduro. Tant pis. Bah, ben, ça sera la prochaine fois.
Oh mes c'est amis, ça, je suis à Kitika, les nouvelles étoiles, des kuduro angolais, et qui boude na qui boude, on s'en fout.